Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Je voudrais simplement rappeler les principes de l'étude et les correspondances entre ce livre du Cantique des Cantiques et puis tout simplement le message de l'Évangile, le message de Jésus-Christ. Notre premier entretien portait sur ce titre, tout simplement l'assurance de l'amour, je le rappelle. La seconde méditation, c'était la bannière de l'amour. Nous avions expliqué en effet ce qu'il en était. La dernière fois, c'était quand l'amour s'éveille. Et puis, cette fois-ci, nous allons tout simplement entrer dans cette nouvelle réflexion que l'on intitulera tout simplement « Un jardin dans le désert ». Alors, on va expliquer un petit peu tout cela. Et je vous signale tout à nouveau que, pour mémoire, que l'auteur de ce livre du Cantique des Cantiques, c'est le roi Salomon, qui est tout simplement l'image du roi terrestre, un roi glorieux sur la terre et majestueux, qui préfigure tout simplement le roi divin, c'est-à-dire Jésus-Christ, qui nous est annoncé naturellement dans le message de l'Évangile, et qui est lui, non pas le roi terrestre, mais le roi céleste. Et puis il y a cette jeune fille, Tsunamite, dont vous trouverez naturellement et toute son histoire. C'est une bergère, pauvre, déshéritée, mais qui représente ce que nous trouvons aussi dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire l'Église, la fiancée, l'épouse de Christ. Et tout cela, c'est sous la forme d'un dialogue. Il y a des questions, il y a des réponses. Et pour la première fois dans notre étude de ce soir, nous allons voir deux intervenants, ce qu'on appelle les filles de Jérusalem, et également, les gardes autour de Salomon qui vont dire quelque chose. Alors ça, c'est le rappel, naturellement, de ce que nous avons vu précédemment. Et dans le titre que je vous ai signalé il y a un instant, « Un jardin dans le désert », c'est un petit peu paradoxal, vous en conviendrez, parce que l'image du jardin, c'est la luxuriance, et le désert, c'est l'aridité, la pauvreté. Vous allez voir qu'il y a quelque chose de tout à fait intéressant. Et dans l'image du jardin, ça nous rappelle naturellement, et particulièrement un jardin dans le désert, on appelle ça une oasis. Voilà. Il y a tout autour, finalement, la solitude, ces contrées déshéritées, hostiles à la vie humaine. Et puis en plein milieu, il y a l'oasis. Où là, il y a de la verdure, il y a de la fraîcheur et toutes sortes de choses. On pourrait le traduire de cette manière, si vous voulez, avant d'aller plus loin. Dans le désert du monde, si vous comprenez mieux, Dieu y a son jardin. Voilà. Donc il y a le monde d'un côté, qui est tout à fait l'hostilité, ce qui n'est pas propice à la vraie vie. Et puis, Dieu y plante véritablement une oasis. Dans l'histoire de la Bible, le jardin, c'est le jardin de la création. On l'appelle l'Éden. Et il y a là quelque chose de magnifique, de paradisiaque, on pourrait dire, et avec tout ce que Dieu a mis à disposition pour ses créatures, et en particulier celui qui est le couronnement de sa création, c'est-à-dire l'homme. Des arbres, des fruits, là, tout ce qui convient à l'épanouissement de la vie. Et puis, dans la Bible, nous trouvons aussi une autre image du jardin, où il nous est parlé, qui a la forme des promesses de Dieu. Très souvent, vous remarquerez, on va pas regarder ça ce soir, mais vous remarquerez que les promesses ont l'aspect finalement, des aspects de la fraîcheur, de la bénédiction de Dieu, comme un jardin, comme quelque chose qui est une bénédiction pour l'homme. Et puis, nous avons également un autre jardin, celui du sacrifice, le jardin de Gethsémané, où Jésus a été broyé. Parce que c'est ça, ça veut dire pressoir à huile, Gethsémané. Et c'est le jardin, après celui de la création, c'est le jardin de la rédemption. Puis à la fin de la Bible, chapitre 21-22 du livre de l'Apocalypse, il est question d'un fleuve où il y a des arbres, où il y a tout à nouveau, nous retrouvons l'arbre de vie. Alors c'est une image naturellement que je vais développer avec vous, mais avant de parler de ce jardin, j'aimerais parler du désert. Et ça va être intéressant parce que l'Église est comme une oasis dans le désert. Alors on va lire, si vous voulez bien, dans le chapitre 3 à partir du verset 6 et on va passer au chapitre 4, une partie, parce que nous prenons les choses naturellement par section. Et c'est important de pouvoir rester sur le titre que nous avons donné, un jardin dans le désert, où dans le désert Dieu y a placé finalement son jardin. Alors, le verset 6 du chapitre 3 nous dit ceci, et c'est les filles de Jérusalem qui proclament, « Qui est celle qui monte du désert, comme des colonnes de fumée au milieu des vapeurs de myrrhe et d'encens et de tous les aromates des marchands ?» Un officier du roi, donc, de Salomon, dit ceci, « Voici la litière de Salomon, et autour d'elle, 60 vaillants hommes des plus vaillants d'Israël. Tous sont armés de l'épée, sont exercés au combat, chacun porte l'épée sur sa hanche en vue des alarmes nocturnes. Le roi Salomon s'est fait une litière de bois du Liban. Il en a fait des colonnes d'argent, le dossier d'or, le siège de pourpre. Au milieu est une broderie œuvre d'amour des filles de Jérusalem. Sortez, filles de Sion, regardez le roi Salomon, avec la couronne dont sa mère l'a couronné, le jour de ses fiançailles, le jour de la joie de son cœur. » Chapitre 4. « Que tu es belle, mon ami, » c'est Salomon qui parle maintenant, « que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes derrière ton voile. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres suspendu au flanc de la montagne de Galade. Tes dents sont comme un troupeau de brebis tondues qui remontent de l'abreuvoir. Toutes portent des jumeaux, aucune d'elles n'est stérile. Tes lèvres sont comme un fil cramoisi et ta bouche est charmante. Ta joue est comme une moitié de grenade derrière ton voile. Ton cou est comme la tour de David, bâtie pour être un arsenal. 1000 boucliers y sont suspendus, tous les boucliers des héros. Tes deux seins sont comme deux fans, comme les jumeaux d'une gazelle qui paisse au milieu des lys. Avant que le jour se rafraîchisse et que les ombres fuient, j'irai à la montagne de la myrrhe et à la colline de l'encens. Tu es toute belle, mon ami, et il n'y a point en toi de défaut. » Voilà, que Dieu nous bénisse. Ça va? C'est romantique, hein. C'est bucolique aussi. C'est magnifique. Pour celui qui sait saisir naturellement la beauté de ce poème. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire? La fois précédente, si vous vous en souvenez, nous avions laissé Sunamite, qui est l'image de l'Église, qui est l'image de la fiancée, qui est l'image de l'épouse, dans l'attente de son époux royal, et son époux royal, c'est Christ. Sunamite, Salomon, Christ, l'Église. Parce que Salomon avait promis à Sunamite de revenir, comme Christ a promis à l'Église de revenir pour la prendre dans sa gloire. Notre destination, faut-il le rappeler, c'est la gloire de Dieu. C'est la gloire du ciel, c'est la gloire du royaume des cieux, parce que, comme un époux qui aime son épouse, c'est de lui faire partager tout ce qu'il a, et entre autres, de lui donner toutes les richesses de son royaume. Nous avons entendu par l'Évangile le royaume de Dieu, parler du royaume de Dieu, et Christ viendra nous chercher pour nous faire rentrer dans son royaume des cieux. Et tout cela, c'est à notre disposition. Alors nous allons ouvrir maintenant une nouvelle page de cette histoire d'amour, parce que tout cela, est tissé de l'amour, qui est celle de la position qu'occupe aujourd'hui l'Église en attendant sa délivrance finale. C'est important, parce que nous avons justement cette relation entre le désert et le jardin. Et il y a un soupir dans le cœur des chrétiens de tous les temps, le cœur, notre cœur, c'est d'attendre le retour de Jésus-Christ, parce que ce sera notre délivrance, ce sera notre libération. À considérer les temps dans lesquels nous vivons, et comme d'autres ont vécu d'autres temps qui étaient certainement pas moins faciles que les nôtres, mais nous disons, Seigneur, reviens bientôt, parce que quand nous voyons l'état de notre société, de notre monde occidental, l'état et l'effondrement, la déliquescence, l'état moral, l'état spirituel, on se dit, mais Seigneur, reviens bientôt, parce que, comme Jésus le dira, mais si je n'abrège ou si je n'avais abrégé ces jours, mais qui pourrait être sauvé, hein? Alors on comprend tout cela. Parce que l'Église d'aujourd'hui, l'Église de tous les temps, depuis que Jésus est monté au ciel, ce n'est pas une Église triomphante, c'est une Église militante et c'est une Église combattante, donc une Église souffrante. Ça paraît peut-être pas, mais quand même, c'est la réalité. C'est une réalité. L'Église de notre temps, ici-bas, il faut le préciser, n'est pas douillettement, permettez-moi cet adverbe, installée dans l'espérance de son enlèvement, en disant, bien, nous n'avons pas à nous soucier, le monde est infect, c'est vrai, mais nous ne nous faisons pas de soucis, c'est... Non, je crois que l'Église souffre de voir l'état du monde dans lequel les hommes qui sont perdus, à travers tout ce qui peut se passer, à travers même peut-être les conflits et les difficultés internes à l'Église. On n'est pas dans un rêve, on est dans une réalité qui fait souffrir le véritable chrétien, le véritable croyant. Et nous voyons qu'elle souffre aussi, cette Église de Jésus-Christ, parce qu'elle œuvre pour le royaume de Dieu, et nous pourrions dire qu'elle est sur le pied de guerre. Autrement, Paul ne nous aurait pas demandé de nous revêtir des armes de Dieu. Ça, c'est une réalité. Alors, elle souffre. Elle souffre les douleurs de la terre, cette Église, parce que nous ne sommes pas des extraterrestres. Nous ne sommes pas des êtres éthérés, mais nous sommes bien dans la réalité de notre monde, de notre temps et de toutes ces histoires. Alors, elle souffre. Parce que il n'y a pas de différence. En tous les cas, pour un chrétien dans son corps comme pour un incroyant dans son corps, nous avons le même partage, le même lot de souffrances. À la différence, c'est que nous avons une espérance et que nous avons un sauveur. C'est ça la grande différence. Alors nous souffrons, l'Église souffre des douleurs de la terre, elle souffre des douleurs de la vie, elle souffre aussi des douleurs du péché. Parce que nous ne sommes pas encore des anges, nous ne sommes pas des anges et nous ne serons jamais d'ailleurs. Toutefois, ces victoires, les victoires de l'Église, la rendent, écoutez bien, la rendent plus belle, plus féconde et plus pure aux yeux de celui qu'elle sert par amour. Et ça, c'est vraiment le regard de Christ sur ce que nous sommes et de la manière dont il nous voit. En raison de nos peines, en raison de nos souffrances, en raison de nos résistances, en raison de la combativité, en raison de tout ce que nous portons par amour pour le royaume de Dieu, pour son roi et pour le salut des âmes. Et Salomon, dans cette expression bien sûr poétique, voit Sunamite de cette manière, parce qu'il l'aime, parce qu'elle est encore plus belle, justement, en raison de ce qu'elle souffre. Et la compassion. Et je crois que Christ aussi a compassion de son peuple, compassion de son Église. Cette Église est vivante, elle n'est pas morte, et elle lutte de toutes parts. Et son roi peut lui dire à travers un des derniers livres de la Bible, livre de l'Apocalypse, écoutez bien, notre Christ peut dire à son Église d'aujourd'hui, « Je connais tes œuvres, je connais ton travail et ta persévérance, je sais que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es pas lassé, qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous. Je connais ton affliction et ta pauvreté, ne crains pas ce que tu vas souffrir, je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. » Imaginez-vous un peu, hein, ce que ça veut dire. « Et tu retiens mon nom. » Et tu n'as pas renié ma foi. Je connais ton amour, je connais ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Voilà ce que Christ peut nous dire. ce qu'il dit à son Église. Est-ce que Salomon, dans toute cette effervescence de sentiments, eh bien, pouvait dire de Tsunamite? Il aimait passionnément d'un amour Tsunamite comme Christ aime passionnément son Église. Alors le descriptif des peines, parce que c'est ça, faut bien dire, eh bien ce n'est pas le ciel. Le ciel, ça sera autrement. Il nous est dit qu'il n'y aura plus de mœurs, il n'y aura plus de peine, il n'y aura plus de souffrance. Toute larme sera asséchée, disparaîtra des visages. Mais le descriptif de peine, c'est bien la terre où l'on souffre de mille manières. Et c'est ce que Paul dira dans Romains chapitre 8. Il dira, mais toute la création souffre et attend le jour de la rédemption et de la délivrance de Dieu. Alors c'est pour cela que la terre est un désert. C'est pour ça que le monde dans lequel nous sommes est un désert. C'est pour ça que tout notre environnement tout autour n'est que désespoir et dévastation, dessèchement, aridité, où il n'y a aucun espoir à attendre. Mais nous sommes au milieu. Et je voudrais vous donner cette belle image, c'est que l'Église, c'est une oasis au milieu de ce désert. Moi je trouve que c'est magnifique, c'est quelque chose. Parce que tous ceux qui sont aérés dans le désert, sur le plan géographique, sur le plan physique, quand ils aperçoivent au lointain, à moins que ce soit un mirage, mais l'Évangile n'est pas un mirage, c'est une réalité, alors ils se précipitent parce qu'ils voient quelque chose de luxuriant, ils ont soif, ils ont faim, et ils se précipitent. C'est pour ça que, même s'ils sont perdus dans le désert, comme nous étions perdus dans ce désert du monde, quand Dieu nous a présenté l'oasis, nous y avons couru, hein, et nous y sommes restés, et que nous y restions jusqu'au bout. La terre est un désert, je le rappelle. Désert où l'amour, où la vérité, où la justice n'existe que dans les mots. C'est tout. On en parle, on le chante, on l'écrit. Il y a toute une littérature, il y a tout un théâtre, une mise en scène autour de ces mots que je viens de citer. Mais ce sont que des mots. Mais c'est absent. Tout cela est absent profondément des cœurs. Qui est celle qui monte du désert? Je reviens. Qui est celle qui monte du désert comme les colonnes de fumée, au milieu des vapeurs de myrrhe et d'encens, et de tous les aromates des marchands? Qu'est-ce que ça veut dire? Autrefois Israël, maintenant le peuple de Dieu, aujourd'hui le peuple de la foi, peut entendre ceci de la bouche de Dieu par le prophète Osée. J'ai trouvé Israël comme des raisins dans le désert. Le prophète dit ça. Je t'ai connu dans le désert, dans une terre aride, c'est là où le Seigneur est venu nous chercher. Et espérons et prions pour qu'il en appelle encore d'autres. Il nous a trouvés comme des raisins dans le désert, vous rendez compte? Alors on va laisser place à la poésie, si vous voulez. Tsunamite poursuit son long voyage dans l'espérance que son bien-aimé va bientôt la rejoindre, la prendre. Et ce chemin, ce long chemin qui l'amène vers celui qu'elle aime, elle est dépeinte dans la suite de notre récit comme portée, alors c'est un mot qu'on n'emploie plus maintenant, mais dans le passé, sur le palanquin du roi. Alors c'était véritablement, alors imaginez-vous, hein, le palanquin. Aujourd'hui on a des Mercedes, hein, c'est autre chose, on a des belles voitures. Mais c'était quelque chose de royal. C'est quelque chose de prestigieux, c'était quelque chose de fastueux. Et nous voyons que il n'est plus là, le bien-aimé. Mais il lui a laissé véritablement ce qui pouvait la porter vers lui dans le plus beau et dans le plus grand des conforts. Il met à sa disposition tout simplement ce palanquin pour adoucir les rudesses du désert qu'elle doit traverser. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire ce qu'un prophète nous a dit déjà. Seigneur, notre Dieu, tu nous as tirés par des liens d'humanité et des cordages d'amour. Tu nous as portés. Et dans Ésaïe, il dira, mais je vous ai choisi dès votre enfance et je vous porterai jusqu'à votre blanche vieillesse. C'est quelque chose de beau, hein, ça aussi, hein. Voilà. Le désert redouté que traverse Tsunamite, le désert redouté que traverse l'Église dans le monde dans lequel nous sommes, c'est un chemin nécessaire et c'est un chemin qui est dans la pleine volonté de Dieu. Dieu ne va pas nous l'éviter. Comme les Hébreux, pour entrer dans le pays de Canaan, ont dû traverser le désert. Et Dieu ne l'aura pas évité. C'est eux qui en ont demandé. Ça aurait pas dû durer 40 ans, ça aurait dû durer 2 ans. Mais ils se sont dit, c'est tellement bien le désert, on y reste. Hein. Ben, ça leur a coûté cher. Hein. Alors, c'est dans la pleine volonté de Dieu. Néanmoins, ce chemin étroit dont nous parle Jésus dans l'Évangile, resserrer le chemin, étroit est le chemin, peu le trouvent, parce qu'il faut s'en donner le moyen. Alors ce chemin étroit a ses privilèges et il a aussi ses privations. Eh oui, on ne peut pas tout avoir parce que nous sommes sur la terre. Privilège lorsque la route difficile nous fait goûter aux douces attentions de Dieu lorsque nous pleurons, lorsque nous avons besoin de consolation, lorsque nous sommes quelquefois humiliés, Dieu est là pour nous dire « ne crains point, je suis auprès de toi ». Ça, c'est les privilèges que nous avons, que les autres n'ont pas. Nous avons sa parole, nous avons sa grâce. Alors, ce sont les privilèges. Et puis les privations qui peuvent devenir l'occasion de développer les plus beaux fruits de la vie chrétienne, les épreuves, les situations difficiles, ce que nous pourrions appeler les tribulations, ce que nous pourrions appeler les afflictions, toutes sortes de choses, si nous avons bien compris le chemin de la foi, ne va pas nous anéantir, mais va au contraire développer le caractère chrétien à l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est le sermon sur la montagne, c'est les béatitudes. Heureux vous qui pleurez aujourd'hui, parce que demain, vous serez consolés. Vous qui avez faim et soif de justice, eh bien vous serez comblés. Et quand on dira toutes sortes de mal à cause de moi, sur vous, eh bien réjouissez-vous. C'est ça les privations. Mais ça développe en nous le caractère d'un homme nouveau. Ça ne va pas nous anéantir. Et l'Église, elle est belle parce qu'elle produit justement dans les difficultés eh bien quelque chose de formidable. L'exemple de Christ, le modèle de Christ, le caractère de Christ, les sentiments de Christ. Voilà les choses. Alors il y a naturellement les privilèges, il y a les privations, mais ce n'est pas négatif. Paraît-il que les rares végétaux qui poussent dans les déserts, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même, eh bien, sont parmi les plus enracinés et les plus robustes. Parce que finalement, c'est un terrain de difficulté, c'est un terrain d'épreuve, c'est un terrain de survie tous les jours, autant pour les animaux que pour les végétaux. Mais en ce qui concerne les végétaux, ça va être, ils vont être enracinés, hein. Ils vont être fondés finalement, mais ils produisent quelque chose de tout à fait particulier parce qu'ils sont dans un monde de difficultés. Et il paraît que ce sont les végétaux les plus odoriférants, pardonnez-moi, qui vont produire les plus belles essences, ce qu'on appelle le nard, les parfums d'Orient, dans les déserts, les ambres, le musc, l'origan, également le patchouli, et toutes sortes de choses. Et les parfumeurs connaissent bien cela. Parce qu'ils sont dans la difficulté, c'est là où ils produisent les plus suaves odeurs, les plus beaux de tous les parfums, parce que c'est difficile. Alors pareil à Tsunamite, dont nous avons l'histoire, qui laisse derrière elle, à son passage au désert, comme nous l'avons lu, des vapeurs qui exaltent la myrrhe, l'encens et les aromates des marchands. Elle passe, elle est dans le désert, mais néanmoins elle est portée. Et parce que les choses sont difficiles, parce que l'Église vit des choses difficiles dans le monde, c'est là où elle doit porter le parfum de Christ, la bonne odeur de Christ. Le chrétien doit-il émaner cette bonne odeur de vie, hein ? C'est terrible, hein, quand l'Église a une odeur de mort, quand ça sent la mort, quand ça ne dit plus rien aux gens, quand elle ne parle plus, quand elle ne respire plus. L'Église, c'est terrible. Mais par contre, quand elle donne envie, quand elle captive, quand elle fascine, à cause de Jésus qui est au milieu d'elle, alors ça change tout. Hein. Un parfum de bonne odeur, nous dit l'apôtre Paul, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable, selon Paul dans Philippiens. Un parfum ne s'explique pas. Mesdames, c'est bientôt la fête des mères. Messieurs, pensez-y. Ah, je fais de la publicité quand même en même temps. Hein. Moi, ça me rapporte rien. Hein. Ça me coûte cher. Bon. Non, vous oubliez ce que je viens de dire. Un parfum ne s'explique pas. Un parfum se respire. Vous comprenez? Il y a des parfums pour hommes aussi, hein. Au mois de juin, ça sera la fête des pères. ça se respire. Les parfums les plus suaves et inestimables qui montent d'un cœur fidèle, même au milieu d'un environnement hostile, portent un nom dans le Nouveau Testament. C'est le fruit du Saint-Esprit. Vous connaissez ? Le fruit du Saint-Esprit. C'est un fruit surnaturel parce qu'il pousse dans un terrain qui est contraire à la nature. La vie et le cœur de l'homme, ouais, avec ses instincts, avec sa brutalité, avec son animalité, si vous voulez. Mais Dieu est là pour ouvrir finalement, eh bien, le nard de grand prix et l'offrir à travers le fruit de l'esprit, le caractère chrétien. C'est un fruit surnaturel qui va transformer peu à peu, qui va régénérer l'être humain, la personne, au cœur même d'une nature mauvaise et desséchée. C'est Galates, chapitre 5, verset 22. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie, c'est la douceur, c'est la bonté, c'est la foi ou la fidélité, c'est la tempérance, c'est la douceur, enfin, il y en a 9 comme ça. Ah oui, c'est une richesse inestimable que ce parfum-là. Voilà la bonne odeur. Et la bonne odeur de Christ, par nous, en nous, pour les autres. On a souvent critiqué l'Église, peut-être à raison parce qu'elle ne sentait plus rien. Elle sentait la division, elle sentait la guerre, elle sentait les querelles, les disputes, quelle honte. Mais l'Église de Jésus-Christ, elle doit sentir, eh bien, un autre parfum, pas un parfum de mort, mais un parfum de vie, un parfum d'espérance. Un parfum d'amour, puisque c'est vraiment ça. Jésus nous dira, je vous donne un commandement qui est le commandement de tous les commandements. Aimez-vous les uns les autres. Alors à ce moment-là, le monde s'incline, parce que le monde a besoin de l'amour. Savoir qu'il est aimé par Dieu, ouais. Qu'il est aimé même dans ses péchés, et qu'il est invité à confesser ses péchés pour que Dieu lui pardonne et qu'il puisse devenir un enfant de Dieu, un racheté. Et porter lui-même à ce moment-là, eh bien, la bonne odeur de Christ. Voici la litière de Salomon, et autour d'elle 60 vaillants hommes, des plus vaillants d'Israël. Tous sont armés de l'épée, sont exercés au combat, chacun porte l'épée sur sa hanche, en vue des alarmes nocturnes. Alors, on va essayer de voir un peu ce que ça veut dire. Tsunamite traverse le désert, transporté sur la litière, ou sur le, comme on a dit tout à l'heure, palanquin, fourni par le roi, avec ces deux aspects que nous avons vus, les privilèges et puis également, eh bien, les privations, naturellement, mais ce qui évoque pour nous que nous n'avons pas à voyager selon nos propres moyens ou selon nos propres idées, ou en recourant à nos propres ressources, par nous-mêmes, mais en nous faisant porter par ceux et celles que Dieu met à notre disposition. Oui. Et là, il est question qu'autour de la litière de Salomon, il y a 70 vaillants hommes, vaillants hommes, et des plus vaillants d'Israël. Oui. Et vous savez ce que nous dit aussi le Nouveau Testament ? Que Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la foi, à la piété, et qu'il ne nous manque rien pour aller jusqu'au bout. Que Dieu a fait des dons à l'Église, qu'il a donné des hommes, c'est ce que l'on appelle les ministères dons, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme docteurs, les autres comme pasteurs, les autres comme évangélistes. Oui, mais que néanmoins, il nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété, à commencer par la parole que nous avons, et que nous pouvons lire à satiété tous les jours. En cours de route, les dangers menacent, c'est pour ça qu'il y a des soldats. Alors Dieu veille à notre sécurité, et la vie chrétienne est un combat. Regardons quelques instants ces hommes forts qui entourent Tsunamite. Il nous est dit qu'autour d'elle, il y a 60 vaillants hommes, des plus vaillants d'Israël. On remarque ceci à cette lecture, c'est que ces soldats révèlent 3 dispositions. L'équipement, ils sont armés, ce sont des soldats, on le comprend. La préparation, ils sont exercés au combat, ce sont pas des novices. Hein. Comme on disait à un moment donné dans les militaires, Il y avait les bleus. Non, ce sont des gens exercés. Donc la préparation, l'équipement, la préparation et la vigilance. Ils sont prêts à parer toutes les frayeurs de la nuit, toutes les frayeurs nocturnes, ce qui se fait dans le secret, ce qui se fait dans les ténèbres et qui peuvent nous surprendre brutalement, d'une manière traite. Ils sont là, ils sont prêts. C'est une image qui n'est pas certainement sans nous rappeler le combat spirituel du chrétien dont nous avons parlé il y a quelques instants, dont Paul nous enjoint à triompher, à la condition de revêtir l'arme ou l'armure invincible face à un ennemi déjà vaincu. Parce qu'il faut savoir, il faut le dire, quand on est enfant de Dieu, quand on a foi en Dieu et en Jésus-Christ, l'ennemi qui essaie de nous torpiller, qui essaie de nous détruire et de nous neutraliser, de nous évincer de la course, il est vaincu. Et ça, c'est la foi qui va faire la différence. C'est pourquoi il est dit d'une manière tout à fait particulière, mais dressez le bouclier de la foi contre lequel viendra s'éteindre tous les traits enflammés du malin. Et nous devons le savoir. Alors pourquoi la crainte et pourquoi la peur? Parce que il n'y a pas de raison, naturellement. Il est vaincu à la seule vue de notre équipement imparable. Et permettez-moi de le rappeler brièvement ce soir, mais nous allons voir ce qu'il nous est dit et souvenons-nous de tout cela, parce que, écoutez bien, dans cet équipement, au verset, alors donc c'est Éphésiens chapitre 16, verset 14 à 18, écoutez bien, « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, c'est ce que nous avons dit il y a un instant, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. » Nous avons tout ce qui convient. Et ces 60 soldats qui sont autour de Tsunamite, c'est autant de défense et de défenseurs autour de l'Église et de chacun d'entre nous, si nous savons véritablement reconnaître les choses. Nous avons tout reçu, tout ce qui contribue à la piété, et que nous soyons, eh bien là, que nous soyons encore debout, naturellement. Il est parlé des alarmes de la nuit, des alarmes nocturnes et des frayeurs de la nuit. Nous savons qui en est l'auteur, celui qui est noir, celui qui est le prince des ténèbres, celui qui se dissimule dans la nuit, celui qui vient jeter de l'ivraie dans le bon grain. On sait, il fait son travail la nuit, il fait son travail dans ce désert la nuit, dans le désert du monde naturellement. Alors ainsi équipé, Tsunamite, donc l'Église, la fiancée, l'épouse, peut poursuivre son chemin jusqu'à son roi. Et nous n'avons pas à avoir crainte et nous n'avons pas à avoir peur. Alors nous allons examiner très brièvement maintenant dans le détail quelles sont les vérités essentielles auxquelles l'ennemi va s'attaquer. Là où nous sommes vulnérables et fragiles, où nous pouvons être vulnérables et fragiles, pour nous détruire, alors que l'Église ainsi armée doit et peut défendre ou se défendre énergiquement, et ce qui nous conduit au verset 9 jusqu'au verset 10. Le roi Salomon s'est fait une litière de bois de Liban. Il en a fait les colonnes d'argent, le dossier d'or, le siège de pourpre, au milieu d'une broderie, œuvre d'amour des filles de Jérusalem. Il y a là tout un descriptif de richesse. Voilà. Tsunamite repose sur la litière royale qui imagine tout ce qu'il y a de précieux où s'appuyer, où l'on puisse appuyer notre foi. Notre foi, elle s'appuie sur quoi? Elle s'appuie sur qui d'abord? Sur Christ. Elle s'appuie sur sa parole. Elle s'appuie sur ses promesses. Elle s'appuie sur les paroles et les enseignements qui nous rendent vainqueurs. Ce sont des choses précieuses. Je suis tout à fait convaincu que si tous les chrétiens étaient conscients de ce que Dieu a mis à leur disposition de valeurs spirituelles, morales et de tout le reste, eh bien les églises seraient pleines. Pourtant nous cherchons l'or et l'argent à côté, dans le monde, dans le désert, alors que nous reposons sur un trésor, si nous en sommes conscients, si nous voulons en prendre conscience. Bois de cèdre du Liban. Nec plus ultra, hein. le cèdre du Liban, qui a été, eh bien, la beauté de la maison de Salomon, vous vous souvenez, bois de cèdre, qui est l'image de l'incorruptibilité, et c'est un bois qui est parfumé en plus. Telle a été la personne et la vie exemplaire du Sauveur. Ouais. On peut dire que, incorruptible. Jésus dira, mais qui me convaincra de péché? Jésus incorruptible. Il ne s'est pas laissé atteindre par le péché. Tenté, mais vainqueur. Que nous, lorsque nous sommes tentés, nous sommes souvent vaincus. C'est la grande différence. Bois, cèdre, naturellement. Qui me convaincra de péché? Qui nous parle de la sainteté absolue de Christ? Les colonnes d'argent. Eh oui. Les colonnes d'argent, c'est sa parole. La parole repose sur les colonnes de la vérité. C'est de l'argent. Sa parole qui est éprouvée, qui sert d'appui à la vérité et qui garantit notre salut. Nous pouvons en toute confiance et sécurité nous appuyer sur sa parole, qui nous dit que nous sommes sauvés si nous croyons à la grâce qui nous a été faite, que nous croyons que Jésus a pris notre place et qu'il est notre rédempteur. C'est de l'or et de l'argent, hein. Il nous est parlé du dossier d'or. C'est cette révélation sur laquelle nous pouvons nous appuyer aussi, révélation éclatante de la personnalité divine de Christ qui accompagne, qui accomplit la justice divine. Il est mort pour nous, parce que nous ne pouvons rien faire dans cette situation. Ce qui fera dire et ce qui fera ouvrir les yeux et la bouche de Thomas, quand il réalisera, il dira « Mon Seigneur et mon Dieu ». Ouais. Le dossier d'or. Le siège de pourpre. Le pourpre, c'est l'image de la royauté. De la majesté. Où l'humiliation fait place à la gloire qui intronise Jésus, roi des rois et seigneur des seigneurs. Vous savez, quand on lui a mis le manteau, hein, de pourpre, pour se moquer de lui. Eh bien, pourtant, c'était pas un manteau à se moquer, mais c'était prophétique quand même. Quand on regarde les choses. Mais le couronnement est en son cœur. Au milieu, le couronnement est en son cœur. Ses vertus et ses valeurs. Au milieu est une broderie, œuvre d'amour. Je trouve que c'est formidable quand on dit des cantiques, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça va, vous allez en rêver toute la nuit, non? C'est beau? C'est beau. Enfin, c'est beau pour celui qui apprécie un petit peu la poésie, hein. Puis alors c'est de la poésie orientale, hein, attention, ouais. Voilà, au milieu est une broderie, au milieu le cœur. La broderie c'est quelque chose de formidable. Moi je suis très distant de tout ça, mais cet après-midi j'ai eu l'occasion de voir une très belle broderie. Ah ouais, qui représentait certainement des jours et des, voire des semaines, voire des mois de travail. Et on en a discuté avec la personne qui nous l'a présentée, on disait, waouh, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Une broderie qui est une œuvre d'amour. Parce que si elle est faite sans amour, eh bien, ça ne veut rien dire. Et toute l'œuvre de Dieu en Jésus-Christ, c'est une œuvre d'amour, une broderie. Où son intérieur est pavé d'amour, nous pourrions dire. Rien ne surpassera et sera comparable à ce qui a fait descendre Dieu sur terre pour sauver les hommes. C'est son amour. C'est Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné ce qu'il avait de plus précieux. La broderie du ciel, si l'on peut dire, œuvre d'amour de notre Sauveur, de notre Dieu. C'est bien cela, la sainteté, nous l'avons vu. C'est la parole, c'est la divinité de Christ, c'est la seigneurie de Jésus et son amour que l'ennemi s'acharnera à détruire pour saper notre foi. Et c'est en cela qu'il veut véritablement eh bien, nous mettre complètement par terre, l'adversaire, parce qu'il va nous attaquer sur tout ça. Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas saint. Sa parole, c'est une histoire. Son amour, vous vous rendez compte, avec tout ce que vous voyez dans le monde? Et là, il va attaquer l'Église. Les Tsunamites, si nous revenons à elle, elle est véritablement là, à traverser ce désert, et elle se demande, mais est-ce que mon bien-aimé m'aime encore? Il n'est pas là? Il n'est pas encore là? Il n'est pas encore revenu? Va-t-il revenir? Tous ces doutes. Alors, il y a une chose que je voudrais vous dire. Restons bien armés, hein. Parce qu'autrement, on peut disparaître dans tout cela. Restons bien armés. Et je vais terminer là. Il y avait encore, mais on va s'arrêter là. Ça pour la prochaine fois. L'apôtre dit ceci. Je vous exhorte, à combattre et à garder la foi, qui vous a été donnée, eh bien là, au commencement. Je crois que c'est ça ce que nous avons besoin. La prochaine fois, nous verrons, parce que je l'ai lu, mais je ne voudrais pas aller trop loin. Mais chapitre 4, que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Alors, on va voir autre chose. Tes yeux sont des colombes, derrière ton voile. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres. Ça fait plaisir quand on l'entend, hein, n'est-ce pas? Alors, on verra. Mesdames, allez, ne le prenez pas mal. J'espère que vous ne m'en voulez pas. On se reverra, si vous voulez bien, le mercredi 19 juin, et je vous reparlerai de la chevelure. D'accord? Alors que Dieu nous bénisse, et on va prier maintenant. On va remercier le Seigneur. Que Dieu nous remplisse de son amour. Alors, un jardin dans le désert, ou tout simplement dans le désert, Dieu y a placé son jardin des délices. Que Dieu nous bénisse. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu ouvres pour nous des voies merveilleuses, comme nous le chantons. Tu nous fais comprendre que nous ne méritons rien, que nous ne sommes rien, mais que tu nous donnes tout. Seigneur, je te rends grâce et je te remercie d'avoir été aimé, alors que j'étais complètement dans l'ignorance de toutes ces choses. Je te rends grâce et je te remercie de ce que tu as adressé pour nous, pour tous les hommes, un jardin de création. Mais plus tard est venu un jardin de rédemption. Un jardin qui nous amène maintenant à comprendre que ce que pouvait dire prophétiquement Salomon le roi terrestre, à sa bien-aimée, à la belle Tsunamite, eh bien c'est ce que Christ dit à son Église aujourd'hui. Oui, que tu es belle, ma bien-aimée. Et nous te louons et nous te remercions, alors nous voulons le croire. Garde-nous maintenant dans la paix. Donne-nous, Seigneur, de méditer ces paroles. Et donne-nous d'être des hommes et des femmes qui portons la bonne nouvelle de l'amour, autour de nous dans un monde qui est un monde qui en a tellement besoin. Et nous te remercions, Seigneur, dans le nom de Jésus. Merci, mon Dieu. Merci, mon Seigneur et mon Dieu, pour ta révélation. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.